Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
On continue à évoquer cette cyberattaque et les enjeux de la cybercriminalité. Nous sommes en compagnie de mon camarade Xavier Delaporte, de Daniel Glasman qui a participé à la normalisation du web, Nicolas Arpagian, spécialiste de cybersécurité qui a notamment consacré un que sais-je sur ce thème, et Nicolas Gaudier qui vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes expert en cybersécurité pour la société Proofpoint. Daniel Glasman, on l'a dit en première partie, la spécificité de cette cyberattaque, c'est qu'elle pourrait avoir utilisé donc des messages qui infecteraient l'ordinateur sans même avoir besoin d'ouvrir la pièce jointe. Comprend-on si les cibles ont été visées ou bien si ces virus sont aléatoirement disposés sur Internet? Est-ce que les ordinateurs se contaminent les uns les autres? Sait-on quelque chose sur le mode de contamination?
Oui, c'est quelque chose qu'on appelle des vers. Alors, le vers se déplace, il y a les virus, les vers, il y a plusieurs niveaux. Je pense que notre camarade qui vient d'arriver en parlera un peu plus. Mais ce genre de produit, parce que c'est un produit criminel, mais un produit, se dissémine. Il arrive sur une machine qui l'infecte, il recherche éventuellement d'autres machines connectées sur le réseau local, sur le réseau distant, dans votre carnet d'adresses de messagerie électronique, et il envoie, que ça soit directement ou par le biais d'un message email, le virus, le ver, tout ce que vous voulez, à qui que ce soit d'autre.
Sans que vous en rendiez compte, évidemment.
Ben, on reçoit, enfin, moi, je reçois toute la journée, des messages d'hameçonnage, voire bien pire que ça, émis par des adresses électroniques, par des machines qui sont infectées, et l'infection prend le contrôle de leur carnet d'adresses, utilise les protocoles de la messagerie électronique pour me transmettre des attaques. Ça arrive tout le temps, tout le temps.
Nicolas Gaudier, aujourd'hui, face à l'attaque qui a frappé donc 150 pays vendredi dernier, que peut-on faire? Qu'est-ce qui est proposé aux entreprises?
Alors, dans l'urgence aujourd'hui, puisque les entreprises sont effectivement au pied du mur, il faut qu'elles agissent rapidement, eh ben, il a fallu patcher. Parce qu'effectivement,
un patch, c'est une manière de colmater un trou, un
correctif pour une vulnérabilité. Donc là, en l'occurrence, on expliquait que ce fameux ver se réplique automatiquement en utilisant une faille qui existe dans le logiciel d'exploitation Windows, une faille pour laquelle un correctif existait déjà. Donc tout simplement, les gens qui étaient déjà à jour, qui avaient fait les mises à jour proposées par Microsoft, étaient, entre guillemets, immunisés contre la propagation de ce ver.
Vous êtes en train d'expliquer que les procrastineurs ont été touchés, pas les autres?
Eh bien, il faut aussi reconnaître que pour une grosse entreprise, c'est pas forcément simple, quand on a un immense parc informatique qui est très, très bien organisé, je dirais, d'envoyer systématiquement ces mises à jour. Ça passe souvent par, effectivement, un temps où on va tester ce patch pour être sûr qu'il ne va pas y avoir des effets de bord sur d'autres choses. Donc, pour les grosses entreprises, c'est vraiment un sujet à part entière.
Oui, parce que c'est vrai que souvent, quand on fait ces mises à jour, c'est pire qu'avant.
C'est un petit peu l'inquiétude régulièrement, sauf que là, on se rend compte que, effectivement, ne pas les faire, on est tombé cette fois-ci sur un gros morceau, et je pense que ça va effectivement changer la façon de penser des gens.
Xavier Delaporte.
Moi, il y a quand même une chose que je ne comprends pas dans tout ça. Ça fait, disons, 20 ans, même peut-être au-delà, que les gens qui s'intéressent à la sécurité informatique disent on s'expose au pire, il y a des problèmes, parce que, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les logiciels sont des énormes constructions qui, en plus, sont construites sur d'anciens logiciels. On reprend des morceaux de code qui, parfois, ont 20 ans. Donc, les erreurs sont là et continuent à être là. Par ailleurs, donc, on a effectivement des phénomènes de fragilisation qui vont augmentant à mesure que le logiciel augmente et que la place de l'informatique dans nos vies augmente. Bon, et on a l'impression que face à ça, pas grand-chose n'est fait, alors que par ailleurs, on sait aussi qu'il y a des logiciels qui fonctionnent, notamment je pense aux logiciels embarqués dans l'aviation, qui sont quand même très très sûrs, très très sûrs. Donc il y a sans doute des moyens, qui sont à la fois des moyens techniques qui passent par des logiciels qui sont capables de prouver qu'un logiciel n'a pas d'erreur en lui-même, mais bon, voilà, c'est qui sont des méthodes qui sont coûteuses en temps et en énergie, etc. Ou alors qui sont coûteuses aussi en argent. Et donc on a l'impression qu'il y a deux vies informatiques. Il y a une vie informatique à laquelle on est tous exposés, à entreprises et individus, qui est extrêmement fragile et de plus en plus, et de l'autre une vie informatique qui, elle, est plutôt sûre, parce que là, pour le coup, ça engage des coûts financiers qui sont énormes, et donc on accepte de payer très cher pour que ce soit vraiment sécurisé.
Alors, différentes réponses. Nicolas Arpagian.
Coluche avait une formule pour dire qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne construisait pas les avions dans le même matériau que les boîtes noires. Parce qu'il dit à chaque fois on retrouve la boîte noire intacte, et donc on devrait construire les avions de la même manière que les boîtes noires. Vous avez tout à fait raison. Autre analogie, il y a écrit « fumez-tu » sur des paquets de cigarettes, manifestement, des gens continuent à en acheter tous les jours. C'est vrai que le problème de cette sécurité, c'est qu'elle permet juste, je l'ai dit tout à l'heure, la continuité de l'activité. Elle ne permet pas d'améliorer les marges, elle ne permet pas d'augmenter les bénéfices. En fait, quand vous dites à quelqu'un, on évoquait le cas des grandes entreprises qui doivent désormais ou devraient investir de manière plus conséquente dans leur sécurisation, ce n'est pas pour que leurs produits soient plus saillants, c'est juste pour qu'elles aient un avenir, ces entreprises. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de gestion des sociétés étant au trimestre, avec des dirigeants qui sont effectivement jugés, rémunérés sur des performances court-termistes, la volonté de construire quelque chose de durable qui peut passer les ans, passer le cap des décennies, des quinquennats, effectivement, c'est entre des arbitrages à faire, manifestement.
Mais ils le font pour un immeuble. Enfin, des entreprises construisent des immeubles qui vont tenir.
Parce qu'on a décerné la notion de responsabilité. En fait, la problématique, c'est que pour l'instant, la non-continuité de l'activité, on n'a pas vraiment formalisé la notion très ancienne, assurantielle, de qui est responsable s'il y a une défaillance. L'architecte, le conducteur des travaux, a une responsabilité. C'est pour ça qu'on a inventé la garantie décennale. Vous évoquez le cas de Microsoft. Microsoft, depuis 40 ans, fait une fois par mois un truc qui s'appelle le Patch Tuesday, donc la rustine du mardi. C'est-à-dire un peu comme si on reprenait un peu votre analogie de l'immeuble, votre architecte reviendrait une fois par mois remettre une brique, changer le tuyau, vous dire « Ah, n'utilisez plus cette porte, passez par l'arrière ». Il s'avère que, contrairement à tout le reste de l'activité économique, l'industrie informatique s'est construite sur la faille. Et c'est-à-dire que ce sont les usages. Alors, on n'imagine pas un constructeur d'avion qui vous dirait « Bon, bah, à chaque fois qu'un avion tombe, ah, bah, en fait, ça me permet de gagner en compétences ».
Justement, par rapport à ça, on nous a expliqué qu'il y avait beaucoup d'informatique dans un avion. On a tous été confrontés avec notre ordinateur à un plantage. Aujourd'hui, avec notre téléphone à un plantage. Les avions, alors, sans mauvais humour, généralement, ils ne se plantent pas. On n'a pas l'impression qu'il y ait des bugs. Comment fait-on pour avoir des programmes sûrs dans un avion et pas sur un téléphone portable?
Et je ne rigole pas, c'est français. J'ai eu l'insigne honneur de remettre à Patrick Couzeau le grand prix de la recherche aérospatiale il y a quelques années. C'est Patrick Couzeau du laboratoire de NormalSup qui a développé les preuves de programmes de cette nature-là qui sont utilisées dans les avions pour garantir les programmes.
Très bien, dans ce cas-là, pourquoi ne fait-on pas des systèmes d'exploitation français?
Premièrement, c'est très récent. Ça n'a pas encore touché tous les secteurs informatiques. Deuxièmement, c'est très compliqué, c'est très cher. On ne peut pas se permettre de le faire pour tout. Il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière. On utilise encore du COBOL. Le COBOL, le vieux langage de programmation pour les systèmes de gestion. Tout le monde pensait qu'il y a 10 ans, il mourrait de sa belle mort. Il est encore là. Faut arrêter de rêver. Les autres langages de programmation qu'on utilise depuis les débuts de l'informatique dite individuelle ou connectée, on les a toujours. Ce sont des logiciels qui sont, l'erreur est aisée. Voilà. Ils sont extrêmement puissants, ils permettent tout ce que vous voulez, mais l'erreur est aisée si on code mal. Et comme les humains sont faillibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commet des erreurs. Les nouveaux systèmes et les nouveaux langages, il y en a un, par exemple, qui est développé par Mozilla, qui s'appelle Rust, qui est beaucoup plus sécurisé dans sa manière de gérer la mémoire et la programmation, va permettre moins d'erreurs. Moins d'attaques, si c'est bien fait. Tout ça est un processus continu. Toutes les briques logicielles développées pendant 40 ans sont continuellement réutilisées. Le logiciel que tout le monde utilise tous les jours sur son ordinateur, le navigateur web, implémente des milliers de protocoles, utilise des centaines de briques développées par d'autres et qu'on réutilise. Il faut voir que tout ça est un écosystème qui ne se change pas facilement.
Nicolas Gaudier, justement, les systèmes que vous préconisez, que vous vendez pour sécuriser les machines, est-ce qu'ils servent pour l'attaque d'avant? Comment faites-vous pour réussir à prévoir l'attaque d'après?
Alors, il y a des technologies aujourd'hui qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années. Les antivirus que vous utilisez même à la maison ont des versions gratuites. Aujourd'hui, on a des choses qui sont beaucoup plus performantes, qui sont capables dynamiquement d'analyser les programmes, de voir le comportement qu'on va obtenir. On en revient un petit peu à la problématique qui, effectivement, sont des solutions qui, au final, coûtent cher à installer. Et que la sécurité en entreprise, c'est souvent vu comme un centre de coût et pas un centre de profit.
Absolument.
Pour vous donner un ordre d'idée avec un chiffre qui est assez flagrant, tout le monde, tous les experts sont d'accord pour dire que 90% à peu près des attaques qui arrivent en entreprise arrivent au travers de l'email, qui est vraiment la chose la plus facile à utiliser. Ça représente 8% en moyenne du budget sécurité dépensé par l'entreprise. Donc le plus gros vecteur, c'est finalement là où on dépense le moins d'argent. Donc effectivement, aujourd'hui, les solutions existent. Je suis assez fier de pouvoir dire que tous mes clients qui m'ont contacté depuis samedi, bah, il n'y en a aucun qui a été effectivement infecté. Donc c'est quand même sympa de travailler dans une boîte comme ça. Mais effectivement, ce sont des gens qui ont eu cette démarche, cette réflexion de se dire... Voilà,
D'après ce que vous avez dit, il suffisait de faire ces mises à jour, ce que tout le monde ne fait pas, certes.
C'est ça. Et disposer également d'outils qui vont vous pouvoir permettre de bloquer. La mise à jour, c'est obligatoire aujourd'hui, puisque c'est ce qui va vraiment bloquer la souche. Mais vous pouvez avoir des outils informatiques qui vont être capables de bloquer l'attaque avant qu'elle arrive. Ce qui fait que si vos ordinateurs ne sont pas patchés...
Comment fait-on pour cela? Parce qu'un verre, c'est un petit programme. Comment l'ordinateur sait-il que le programme qui est envoyé par le biais d'un mail est un programme malveillant?
Alors, c'est une question généralement de comportement. Donc on va en fait tout simplement, avant de délivrer par exemple l'email, on va en prendre la pièce jointe par exemple, ou les URL qui peuvent être dedans. On va les exécuter dans un environnement que nous, société de cybersécurité, contrôlons, et on va regarder le comportement sur cette machine. Si on voit des choses anormales, si on voit des choses qui se téléchargent, qui s'exécutent toutes seules, un comportement complètement anormal pour une application, on va se rendre compte que cette application est effectivement un malware, quelque chose en tout cas qui va essayer d'avoir un comportement malicieux sur votre poste, et on va le bloquer à ce moment là avant même d'être capable de le délivrer à l'utilisateur.
Xavier Delaporte.
Est-ce que vous observez les uns et les autres dans vos champs de compétences différents une acculturation progressive des gens qui sont vos interlocuteurs vis-à-vis de ces questions-là? Les États, les entreprises, etc. Progressivement, les générations changeant, les gens qui arrivent aujourd'hui à la tête de ces entreprises ayant été élevés, ayant grandi dans une culture informatique, acceptent l'idée que à un moment il va falloir... payer ou investir.
Alors, le problème, c'est que c'est pas parce qu'ils vivent au contact, j'évoquais tout à l'heure la nécessaire éducation, formation à la compréhension du fonctionnement de l'informatique. Le fait d'être un utilisateur passif, j'ai l'habitude de dire la dinde à Noël est un acteur très important du repas de Noël, simplement il s'avère que même si elle est au centre et elle est vraiment au cœur des préoccupations, sa place n'est pas forcément la plus enviable. Et c'est vrai que l'utilisateur, pour résumer le propos, c'est pas parce que vous utilisez pendant des heures un iPad toute la journée et donc vous êtes au contact de la matière informatique théorique, que vous êtes en mesure d'apprécier les évolutions techniques, puisque en fait vous n'êtes qu'un utilisateur passif d'une technologie développée par d'autres, maîtrisée de bout en bout par d'autres. En fait, il s'avère que souvent la culture de sécurité, il faut reconnaître, ne progresse que à l'occasion d'une confrontation en général douloureuse ou coûteuse après. Avec la sécurité. Voilà, on est beaucoup dans l'après, mais je vous dis, c'est pour ça que je faisais l'analogie avec les cours de secourisme qui n'ont jamais autant recruté qu'à l'issue, hélas, d'événements tragiques ou des gens sont confrontés à leur incapacité d'agir au moment où ils estiment qu'ils auraient dû avoir les réflexes pour porter assistance. Et c'est là où effectivement on commence à se dire on va mettre en place des outils. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, sans aucun romantisme, un certain nombre d'acteurs financiers, strictement boursiers, commencent à dire, notamment des sociétés d'analyse, à dire, moi quand je vais évaluer la durabilité d'une entreprise, le fait que je puisse mettre de l'argent dedans et que je vais recommander à des actionnaires de mettre de l'argent dedans, il va falloir que vous me démontriez la robustesse de votre informatique, parce que si elle est mise, votre entreprise, hors d'état de fonctionner à la première ou en tout cas à une attaque conséquente, moi, qu'adviendra-t-il de mes investissements? Alors évidemment, ce n'est pas une motivation technique, c'est juste très financier, mais en tout cas, ça contribue à consolider cette approche cybersécuritaire.
Bon, mais je ne voudrais pas faire un peu de complotisme, même si Internet et complotisme font bon ménage, mais il y a toute une série d'entreprises qui sont des entreprises parfaitement honnêtes, en tout cas qui ont pignon sur rue, qui introduisent dans votre ordinateur des choses que vous ne voudriez pas a priori y trouver. Absolument. Il y a récemment eu un scandale peu médiatisé en France, mais largement médiatisé aux États-Unis, où Uber avait trouvé un moyen de conserver son application, y compris lorsque celle-ci était désinstallée de son ordinateur. Est-ce que finalement les grands acteurs d'Internet, tels qu'Uber, mais pas uniquement Uber, ont intérêt à ce que les logiciels, à ce que les ordinateurs surtout, soient bien protégés, Daniel Glasman?
Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. On a tendance à dire ça. Aujourd'hui, les choses les plus importantes qui sont disponibles sur votre ordinateur restent encore vos documents. C'est-à-dire vos documents bancaires, votre copie de passeport, des choses comme ça. Ça a une valeur colossale pour un criminel. Enfin, colossale. Un passeport, maintenant, ça vaut plus grand-chose. Une carte bancaire non plus, ça s'achète facilement. Mais avec tous les objets connectés, les caméras, les micros, les Google Home, les Alexa, les ce genre de choses,
ces
les Siri.
Ces petites enceintes qui aujourd'hui sont vendues, absolument, notamment aux États-Unis.
Enfin, enceintes et micros surtout. Attention, hein. Et bah, ce qui va se vendre le plus, c'est vos données privées. C'est ce que vous faites, c'est vos images, c'est votre audio. On peut rappeler dans les histoires, les petites anecdotes, les caméras vidéo activables sur les télé Samsung aussi, hein. On rentre dans la sphère privée de plus en plus, mais plus dans l'ordinateur, dans la pièce, des photos de vos enfants, ce que vous faites, qui vous recevez, à quelle heure, quand, où. Mais ça, alors, c'est beaucoup plus grave.
Nicolas Gaudier, est-ce qu'on est certain aujourd'hui qu'il n'y a pas, de la part de Google, de la part de... On a récemment découvert qu'Apple avait par mégarde conservé la trace de la totalité des mouvements faits par l'internaute sur Safari, autrement dit le système d'exploitation d'Apple. Alors évidemment, on a des doutes sur le fait que ce soit une erreur absolument involontaire. En tout cas, on voit qu'il y a une manière pour différents acteurs de s'installer sur votre ordinateur et de regarder ce que vous y faites. Est-ce que ça, par exemple, c'est sécurisé ou sécurisable aujourd'hui ?
Alors, ces grandes entreprises n'aiment pas trop qu'on parle de ce genre de choses-là, hein, parce que forcément, ça donne pas trop une bonne image. Donc, effectivement, il y a cet aspect. Vous dites, on l'a pas fait exprès. On est désolé. C'est toujours plus facile de s'excuser que de demander la permission. Généralement, c'est très rapidement suivi d'un bouton qui permet de le désactiver, hein, pour qu'il y ait effectivement plus de problèmes. Mais on a effectivement ce souci qu'aujourd'hui, on a tous notre téléphone dans la poche et on appelle toujours ça un téléphone. Mais au final, c'est plus tellement le téléphone qu'on avait il y a une dizaine d'années. On a effectivement notre vie numérique entière. Vous évoquiez les documents qu'on a sur son ordinateur, etc. Bah, au final, j'ai exactement la même chose sur mon téléphone. Ça devient aussi très facile de me suivre. Et en termes de cybersécurité, c'est aussi devenu un point très important pour nous, puisque il y a quelques années, je protégeais les utilisateurs quand ils arrivaient au bureau, qu'ils allumaient leur PC et je pouvais avoir un mur, en fait, autour de l'entreprise et la protéger de cette façon. Et aujourd'hui, bah, les utilisateurs, leurs données, elles sont partout. Ils se promènent avec, ils se connectent sur Internet pour des solutions de l'entreprise. Donc il faut effectivement changer cette façon de penser, il faut changer cette façon de faire de la sécurité, arrêter de penser bastion périmètre, et les hackers l'ont bien compris, aujourd'hui ils s'attaquent beaucoup moins aux équipements de l'entreprise et beaucoup plus facilement aux utilisateurs.
C'est l'analogie avec la banque, on n'attaque quasiment plus de braquage de banque, ça n'existe plus parce que c'est trop dangereux, l'agence bancaire a été sécurisée, des moyens de maculer les billets, le fait que effectivement des mesures physiques ont été prises et donc bah en fait après on a attaqué les fourgons puisque c'était là où il y avait des sommes rassemblées avec une protection moindre et puis après effectivement il devient encore plus rentable d'attaquer les virements. Ce qu'on évoquait sur les entreprises mais également les États, l'attaque internationale a suscité la mobilisation du Premier ministre britannique et des autorités allemandes, notamment il s'avère que les États sont un peu réticents à cette grande coopération. Il s'avère que pour l'instant dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la sécurité, vous voyez bien un grand pays comme la France a créé son agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'Allemagne a créé la sienne, et ainsi de suite pour tous les pays. À aucun moment il n'a été sérieusement envisagé de mutualiser au niveau européen cette dimension-là. On pourrait le considérer en termes de rentabilité, de rassembler les cerveaux, les ressources financières. Non, c'est bien du chacun pour soi, et les États apprécient également de pouvoir mener des attaques sur ce terrain numérique et ne tiennent pas à ce qu'une la clarté totale, la traçabilité soit au rendez-vous.
Un mot de conclusion, Daniel Glasman, sur le futur, en quelque sorte, de ces cyberattaques. Vous aviez l'air de considérer qu'elles étaient attendues, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur ?
Oh, des attaques sur vos caméras vidéo, votre machine à laver, votre frigo connecté, votre montre connectée, votre tracker de forme au poignet, tout ce que vous voulez, tout ce qui est connecté. Toutes ces machines, parce que ce sont des machines, ce sont des petits ordinateurs, implémentent plusieurs protocoles de connexion. Il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi, il y a du filaire, il y a tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des vecteurs d'attaque. Moi, vous me donnez, je pense que notre camarade ici présent peut le confirmer, vous me donnez un accès à une machine même éteinte. Il y a un mot de passe, il y a un mot de passe BIOS, il y a tout ce que vous voulez. En l'espace de 3 minutes, j'ai la totalité des données. Et en distance, ça ne va pas prendre 3 minutes, ça va en prendre 8.
Nicolas Gaudier, on a bien compris en tout cas qu'il fallait faire ces mises à jour.
Oui, ça reste important, hein, c'est clair. C'est quelque chose qui est simple à faire pour un particulier. Vous savez, souvent, vous éteignez votre ordinateur, il vous dit « Attendez, j'installe des choses ». Vous partez, vous le laissez faire. Donc pour un particulier, c'est simple. Pour une entreprise, eh ben, effectivement, la complexité du fait d'être obligé d'installer tous ces systèmes de patch fait que c'est très important d'utiliser aussi des outils de sécurité qui vont permettre justement de faire barrière, d'empêcher ces malwares d'arriver à l'utilisateur avant même qu'on ait eu effectivement besoin de patcher.